On vient de se payer à la traite solide, nous autres. Hey, y a pas de vegan en place. On vient de passer à la pause à jaser de viande. Toi, filet de porc, hein, les côtelettes de porc un petit peu. Ouais, mais le porc en saucisse. Un petit boucher à côté de chez nous qui fait des saucisses veau permis de Gianna. Là, Georges, on entend juste avant de revenir en onde. Wesh! Dégueulasse!
Et pourtant, tout ça avait bien commencé pour Georges, qui trouvait que c'était une excellente leçon de vie que ma femme ait failli y passer lundi soir en s'étouffant littéralement sur une côtelette de porc. Mais
ce n'est pas vrai.
Non.
Ce n'est pas vrai. Ne mens pas.
Ah, mais ça, c'est pas drôle, par exemple. Là. Mais
non, non, c'était pas drôle. C'est aussi pas drôle qu'essayer de se trouver une chaise dans ce studio-là, je te dirais.
Ben, pourquoi tu penses que je fais ça debout?
Hey, en passant, t'es rendu mon point de référence, Gonzo. J'aime beaucoup m'acheter des hoodies.
OK.
Puis tu sais, on est tout le temps bombardé de pubs quand il y a des bons rabais. Puis là, on approche d'une transition de saison. Puis à chaque fois, je me dis, ah, tu sais, je sais pas, je n'ai-tu trop? Puis après ça, une fois de temps en temps, je m'en viens faire un tour en studio, je te vois avec un autre, un 200 énième hoodie que j'ai jamais vu, qui sont toujours très cool, puis je me dis, bah, je vais l'acheter la prochaine fois.
Ouais, acheter. Dans le doute, on achète.
T'as combien de garde-robes de hoodie? Juste de hoodie?
Je sais pas. Genre, je m'ai posé la question, je pense combien j'avais dit?
T'as 200 hoodies, t'as dit.
Ben, ça a du sens. Hein. Je t'ai jamais vu avec le même hoodie deux
dans
fois.
Dans des boîtes, t'en as à peu près 200, t'as dit.
Ah ouais, en boîte, ça, c'est sûr.
Tu as des XL.
T'as des hoodies en boîte?
Ben, dans des bacs, là. C'est, des fois, je fais des rotations. J'en donne à des amis. J'ai comme une popée rotation. Hein. Là, mon gars commençait à me dire, ah, lui, je vais le garder quand je vais être grand. Je suis comme, il sera plus bon quand tu vas être grand.
C'est pas vrai?
Ouais. En tout cas.
Bon, mais écoute, tu viens juste d'appuyer ma théorie que je, la prochaine fois, je vais me dire...
Fais-toi plaisir des fois, Ali. Un hoodie, c'est passe-partout.
Au lieu de « En as-tu besoin? »« En as-tu vraiment besoin? » C'est « Gonzo, il ferait quoi? »
Moi, je suis pas un bon. Moi, je l'achèterais.
Gonzo met ça l'été aussi, Ali. Quand il fait chaud dans le studio, il chiale qu'il fait chaud, mais il y a un hoodie.
Non, ouais, mais Georges, tu m'as déjà vu gérer la brise. Automne, printemps, comme été, c'est sûr que moi aussi, je porte des hoodies l'été.
Bon, tu vois... Yes, sir, Ali.
J'avais un hoodie à Cuba la semaine passée. Là.
Je t'en amène un la semaine prochaine?
Avec plaisir.
OK. Parce que je peux pas faire ça avec Georges puis Ben parce que ça leur fait pas.
Écoute, t'as un preneur devant toi.
OK. Je t'amène un petit crew neck. Là. J'étais en train de faire le... En tout cas, je t'en amène un la semaine prochaine.
Amène-moi ton bac Canadian Tire, un moment occupé.
Pas de problème.
Hey, Ali, le CF qui est à 0-3, là, est-ce que la situation, pour toi, elle est déjà urgente?
Pas en termes de points. Mais, non, parce que hey, des équipes qui perdent 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, montent à 7-8 là, dans une saison MLS sur la route, il y en a plein. Même des équipes qui font les séries, qui vont loin en série, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas au bout de 3 matchs qu'on va crier à la catastrophe. Là où, par contre, moi, j'aimerais voir une amélioration, puis c'est là-dessus, tu sais, c'est le fameux cliché du processus qu'on veut voir, ou surtout la stabilité dans ta capacité à répéter des performances, je te dirais même pas d'un match à l'autre. On va commencer par un match tout court, tu sais, d'un quart d'heure à l'autre, de commencer le match, sentir que tu es installé, parce que tu as eu des super bons flashs la semaine passée face à Vancouver en fin de mi-temps. Minnesota au deuxième match, ça n'a pas été bon. Non. Premier match face à Atlanta, il y a eu des flashs super intéressants là aussi. Écoute, marqué 2 buts sur la route face à une équipe qui a une attaque du tonnerre qui a coûté 30 ou 40 millions. C'était une bonne performance, mais tu n'as pas été capable de faire sur tout le match, puis tu as échappé des buts. Puis ça, c'est un gros problème encore en ce moment. Ça fait 3 matchs de suite que tu encaisses sur coup de pied arrêté. C'est là où il faut que tu trouves un peu plus de stabilité. Puis je pense que ça commence par des choix un peu plus stables du coach, parce que chacun des 11 de départ a eu 4 changements sur le 11 de départ précédent. Ça, pour avoir la continuité d'un match à l'autre, c'est loin d'être idéal.
Ouais, j'avoue. On va rester je dirais pas en musique, mais on a parlé de musique plutôt à l'émission, puis on s'en va au MTLUS, parce qu'on a besoin de ta critique de cette soirée de lancement de saison de lundi.
Ces soirées-là sont tellement le fun, les gars. Là. Puis, tu sais, on parle du sentiment d'urgence. C'est clair que tout le monde veut aller chercher un résultat. Là. Tu voulais aller en chercher un à Vancouver, Minnesota, Atlanta. Ça va être la même chose en fin de semaine à DC United. Cela dit, de revenir, surtout pour des gars qui viennent de signer ou qui ont signé, mettons, comme Caden Clark l'an dernier. Il arrive en milieu de saison. Il y a une fin de saison phénoménale. Là, c'est plus compliqué. Là, on ne sait pas s'il est à court de confiance, si c'est des circonstances contractuelles. Bref, c'est un petit peu plus chaotique en début de campagne. Mais ces gars-là, là, qui n'ont jamais vécu un hiver avec le CF Montréal, qui n'ont jamais vécu un camp d'entraînement où tu es parti pendant 6 ou 7 semaines, que tu commences sur la route pendant 6 ou 7 matchs, à mi-chemin de cette première séquence-là, de revenir à la maison et faire « Ah, c'est pour eux qu'on se bat. Ah, c'est pour ça qu'on défend le maillot du CF Montréal. » C'est eux-là, en plein hiver, ils se déplacent, ils sont des milliers. Il y a les chants qu'on va retrouver au Stade Saputo que j'ai entendus comme adversaire ou que j'ai entendus l'an dernier quand je me suis joint au club en milieu de saison. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. C'est tellement, tellement précieux. Après, la formule, est-ce qu'elle a peut-être besoin, pas d'évoluer, mais...
De rafraîchir, ouais, rafraîchissement peut-être
de rafraîchissement peut-être un peu, mais ça vaut tellement, tellement le coup. À chaque fois, moi j'y vais, là, puis les gens ils me demandent toujours la même chose. « Ah, t'es là, tu travailles. » Je faisais le 5 à 7 RDS dans les minutes qui ont précédé l'événement, mais après, honnêtement, je me prends une bière, puis je suis là comme observateur. C'est tellement le fun, puis chapeau. Je sais pas c'est l'idée de qui, mais chapeau à la personne qui a eu l'idée 10 ans plus tard d'inviter Cameron Porter, qui a marqué le but le plus mythique dans l'histoire de ce club-là. Souvenez-vous, quart de finale de Ligue des champions, dans les arrêts de jeu au Stade olympique, il y avait 30 000 personnes, puis tout le monde à qui tu parles de ce moment-là pense qu'il y en avait 60 000. On est convaincus. Il n'y en avait pas. Le stade était à moitié plein, là, ou à peut-être un tout petit peu plus que la moitié, mais le feeling qu'on a eu, le stade shakait. Moi, j'étais là, c'était la folie totale de le faire revenir, de faire monter sur scène, qui a même un rôle de maître de cérémonie pendant quelques instants. Bravo, parce que trop souvent, au fil des ans, le CF Montréal ou l'Impact de Montréal est passé à côté d'opportunités d'honorer son passé. Là, ils l'ont fait pile poil avec un gars qu'il méritait, qui est encore adoré des partisans. Ça a été fait avec classe. Chapeau à tout le monde.
Là, Ali, dis-nous, là, pour le match contre Washington samedi, est-ce que c'est le match qu'on va remporter ou on est négligé?
Oh, c'est ça. Écoute, regarde, je vais te régler cette question-là, Georges, parce qu'elle est tout à fait pertinente, mais tu vas être négligé jusqu'en
avril. Un bout.
Jusqu'en avril. Non, mais tu vas être négligé jusqu'en avril.
Quand tu vas revenir à la maison, tu vas être correct.
Exactement. Ouais. Parce que là, en plus, tu as des blessés. Ouais. Les Samuel Piette, les George Campbell, Vrioni sont pas revenus à l'entraînement complet encore. Aujourd'hui, c'était congé. L'entraînement va reprendre demain à l'approche du déplacement au DC United. DC United, ils ont marqué aux 3 matchs. Christian Benteke a marqué et raté un penalty. C'est une équipe qui marque. C'est une équipe qui n'a pas perdu. Ils ont fait 2 matchs nuls de 2-2. Ça a été suivi par leur première victoire de la saison le week-end dernier. C'est vraiment pas facile. Je regardais la température parce que ça, dans plusieurs marchés à travers la MLS au cours des dernières semaines, ça a été un gros facteur. Des matchs qui ont été joués. Bien, à commencer par le CF Montréal au Minnesota il y a quelques semaines, c'était moins 6 là, quand les équipes étaient sur le terrain. Je pense pas qu'on va être dans ces eaux-là. Je parlais d'un maximum de 21. Fait que mettons que le soir, tu tournes autour des 10-15 degrés, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais avec l'effectif que t'as, les joueurs dont t'es privé, puis d'ailleurs, on en a parlé avec Frédéric Laure lundi au fond des filets, c'est là où tu te rends compte que la profondeur, t'en as, mais de la profondeur de personnalité forte, capable de se lever dans les moments difficiles, c'est là où la perte d'un Samuel Piette te fait mal, d'un George Campbell, et l'absence de Vrioni depuis le début de la saison, parce que ton seul joueur désigné de l'équipe, l'attaquant vedette qui est supposé dire « Donnez-moi-le, venez-vous-en », comme Joseph Martinez l'a fait l'an dernier, il n'est pas là. Donc, c'est là où ça devient un défi, puis c'est là où j'ai hâte de voir le 11 de départ de Laurent Courtois, parce que j'aimerais vraiment voir quelque chose qui ressemble plus à ce que tu vas voir de manière répétée au cours des prochaines semaines que continuer à essayer de changer d'un match à l'autre.
Fut un temps où on avait une collection de joueurs avec le Canada. Et là, cette fois-ci, c'est seulement Joel Waterman qui est appelé par le Canada. Et c'est le seul. Tu vois ça comme une déception ou pas?
Parce que c'est ponctuel, non. Mais c'est certain que c'est un baromètre pour moi. Puis souvenez-vous, le moment où ça a commencé, là, cette idée-là que le CF Montréal a toujours des gars en équipe nationale, c'était quand? C'était dans le build-up à la Coupe du Monde. Puis c'était à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. T'en avais beaucoup. Mais t'en avais beaucoup, pourquoi?
James, parce que les résultats de 2021 aussi venaient faire
de 2022. En sorte que,
ouais, 2022.
Parce que c'était à la fin, on l'oublie, là, mais cette Coupe du Monde-là, c'était la première un peu weird. Malheureusement, probablement pas la dernière, qui jouait à l'automne slash hiver. Mais un James Pantémis, là, il est pas là si le CF Montréal n'a pas une année record. T'sais, donc, les résultats sur le terrain, on parle souvent de développer des joueurs, c'est vrai. De revendre des joueurs, oui. Mais les joueurs prennent de la valeur quand? Ils prennent de la valeur quand ils sont bons, Oui, ça c'est vrai. Mais bon dans une équipe qui gagne, c'est encore mieux. Ben puis oui. Bon dans une équipe qui gagne et sélectionné en équipe nationale, là, ta valeur monte et assez rapidement, merci. On a juste à regarder l'exemple d'Ismaël Koné en 2022 qui est passé de « j'ai jamais joué une minute pro de ma vie »
à être invité.
À « je suis vendu en Europe pour une dizaine de millions ». Donc, pour le moment, je trouve que c'est logique. T'sais, est-ce que tu peux vraiment amener Jonathan Serrois là après le début de saison que le CF Montréal a? Nathan Saliba, est-ce que c'est le moment de l'amener? Samuel Piet est blessé. Est-ce qu'il aurait fait la coupure? Je comprends la décision. Je critique en rien Jesse Marsh, mais c'est clair que l'objectif, une fois que tu as passé cette Nations League-là pour les compétitions cet été, c'est sûr, surtout à l'approche. Là, dans pas long, on va être à 365 jours de la Coupe du Monde en 2026. Tu veux avoir plus de joueurs du CF Montréal dans cette équipe-là.
Là, Big, est-ce que le fait que le Canada va jouer au moins deux matchs au stade Saputo avant la Coupe du Monde, c'est un bon prix de consolation vu qu'on n'en aura pas d'ici pendant le tournoi?
Oui, mais de consolation. Parce que au moment où on a pris cette décision-là, là, puis je veux pas revenir sur la décision gouvernementale, ça allait coûter trop cher. OK, on pourrait repartir sur ce débat-là. Moi, je pense qu'on aurait pu aller au fond de la question beaucoup plus au départ et arriver à un non. Mais au moins, on aurait eu le feeling qu'on est allé au bout de la question. C'est absolument pas le feeling que j'ai en ce moment. Une fois que cette décision-là est prise, qu'il n'y aura pas de match de la Coupe du Monde en 2026 à Montréal, je trouve ça tellement, tellement cool qu'il y ait, on dit un minimum, là, c'est Canada Soccer qui parle, un minimum de deux matchs à Montréal. Parce que quand cette décision-là a été prise, on se demandait encore, mettons que l'équipe nationale passe à Montréal, là, est-ce qu'on remplit le stade? Ce stade-là va être rempli, là. Ça va être une question de minutes. Souvenez-vous, l'an dernier, à la fin de la saison dernière, l'équipe est venue s'entraîner à Montréal, allait signer des autographes. Alfonso Davies qui signe des autographes à Laval, d'autres qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait vraiment un gros buzz avec, je pense, un ancien entraîneur de l'Impact qui y est pour beaucoup.
Si le stade olympique avait été disponible, est-ce qu'on l'aurait mis au stade olympique?
Oh! Hey, j'ai jamais pensé à ça.
Je me dis, moi, je trouve ça vraiment cool que ce soit au stade Saputo parce que t'es à l'extérieur,
bonne t'es ici,
t'es ça. Mais Gonzo, le réflexe qu'on avait avant, même l'été, on transférait ça au stade olympique.
Ouais, mais le synthétique, big, oublie ça. Là.
Non, mais t'as raison, mais ça pourrait être ça aurait été une excellente manière de roder ton stade olympique. Tu sais, là, on s'entend que ta question, c'est on considère que le stade olympique est disponible. Tout est fonctionnel.
Ouais, s'il avait été disponible et fonctionnel. T'sais.
Écoute, juste le fait que j'hésite, je peux pas croire. Là, c'est en 2012 que cette équipe-là, le Canada, a joué face au Honduras au stade de Saputo. Stade Saputo était bleu, pas avec des maillots de l'Impact, là, avec des maillots du Honduras. Ça veut dire que le buzz avait absolument rien à voir avec ce que tu as en ce moment pour que tu me poses la question. Puis la question est super pertinente. Je pense qu'on l'aurait quand même faite au Stade Saputo parce que...
Le synthétique.
Tous les coups, si ça avait été pour préparer des matchs à la Coupe du Monde, oui, je pense que tu aurais été capable de faire ça. Ils l'ont déjà fait, remarque. Souvenez-vous quand, c'était en quelle année, en 2010, 2011, où l'AC Milan, avec Ronaldinho, etc., était venu jouer contre l'Impact au stade olympique.
C'était au stade, oui.
On avait mis du gazon naturel. Et puis ça avait été un aria, si je peux juste me permettre une petite parenthèse. À l'approche de ce match-là, les gens qui étaient responsables des infrastructures, puis surtout du terrain, regardent puis ils disent, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si c'est un gardien qui a dit, ça marche pas votre affaire. Là. Il y a quelque chose avec le terrain puis avec les buts qui ne fonctionnent pas. Tout le monde se grattait la tête et disait, écoute, c'est quoi? Mais les ancrages du but étaient faits en fonction du terrain synthétique. Mais là, tu ajoutais de la tourbe par-dessus. Ça veut dire qu'il te manquait, mettons que c'est 4 pouces là, la tourbe. Je dis n'importe quoi. Mais les gardiens disaient, ou les responsables du terrain,
Les repères sont pas pareils.
Ben, je regarde le but, là, ça marche pas. Là. Il manque, ou c'était peut-être les tireurs de coups francs aussi qui disaient « Moi, j'ai plus de lousse d'habitude quand je veux tirer mon penalty ou mon coup franc. » Puis là, il avait été obligé de jacker en bon français les poteaux pour s'assurer d'avoir le bon dégagement. Bref, ça devient complexe quand tu veux faire un match sur terrain naturel au stade olympique, mais c'était ça mon point, justement. Qu'on se pose cette question-là, à savoir, on aurait-tu pu remplir 50 000 personnes ou est-ce qu'on doit se contenter d'une vingtaine de mille ou un peu moins de 20 000? Ça montre à quel point le statut de Montréal comme ville de soccer au Canada a complètement changé depuis 5 ans.
En terminant, Ali, la CPL à Québec, ça avance? Est-ce que tu y crois?
J'y crois. C'est de loin. Puis il pourra avoir un marché montréalais. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Laval, etc. Mais Québec, c'est la ville pour la CPL au Québec. Mais le problème dans le passé, c'est qu'il y a eu une ignorance monstre de la réalité de la capitale nationale à la direction de la CPL. Fut un temps où on voulait faire ça sur la rive sud de Québec. Là, je le sais que depuis que je suis parti en 2010, là, il y a beaucoup plus de gens qui se sont installés à Saint-Nicolas, à Charny, puis ça fait presque partie de Sainte-Foy. T'es l'autre bord du pont. Mais t'en aller sur la rive sud, là, moi, quand j'ai grandi, j'étais un gars de Limoilou, ça prenait ton passeport pour aller virer à Lévis, surtout si tu prenais pas le traversier. Ouais. C'est à l'autre bout du monde que tu t'en allais si tu voulais aller faire Lévis, Saint-Jean-Chrysostome. Là, je pense qu'on commence à comprendre qu'il faut que tu restes au cœur de la ville. La grande question, c'est l'emplacement. On parle beaucoup du stade de l'Université Laval ou du site de l'Université Laval. Moi, je pense qu'il faut que ce soit au cœur de la ville puis que ça tu aies un feeling citadin, urbain, plutôt qu'un feeling de campus universitaire. Puis j'ai fait mes études à Laval. Là. C'est extraordinaire ce que tu as là, mais je pense pas que c'est la vibe que tu vas aller chercher. Ce que je me demande, ça vient... Ces nouvelles-là d'investisseurs qui pourraient être intéressés, de 3, 4, je sais pas, on monte jusqu'à combien, peut-être 5, 7 potentiels pour un stade, ça vient dans la foulée de la nouvelle que le vieux Colisée va être démoli. Ouais. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire là, avec des développements immobiliers à Place Fleur-de-Lys. Pour ceux qui connaissent, c'est pas trop loin du centre Vidéotron. On est en train de revamper ce quartier-là. Si t'étais capable de mettre un stade là, en plus de tous les autres développements que tu vas faire, l'ambiance serait phénoménale. Un stade de 5-6 000 personnes pour, un, une équipe de CPL, deux, une équipe éventuelle de la Ligue où les Roses vont débuter là, parce que je pense que rapidement, ça te prend une équipe à Québec puis une rivalité Québec-Montréal qui serait extraordinaire. Un stade que tu pourrais utiliser pour d'autres activités aussi. Je pense que les planètes s'alignent à quelque part. Donc, pour répondre à ta question, la CPL à Québec, absolument, j'y crois.
Oli, merci beaucoup.
Merci, Big.
On se donne rendez-vous lundi pour un au fond des filets avec Fred. Très, très hâte de voir à quoi va avoir ressemblé le déplacement au DC United en fin de semaine pour le CF Montréal.
Bon match ce week-end, Oli. Merci, salut. Toujours merci, un plaisir. Big.